Adiós, Cookie. Radioscopie.
André Barreau.
Jacques Chancel. André Malraux, je vous remercie de venir aujourd'hui ici en direct à cet entretien. Vous êtes dans l'histoire et il n'est pas meilleure manière de vous reconnaître historiquement que d'emprunter à Charles de Gaulle parlant de vous. À ma droite, disait-il, j'ai et j'aurai toujours André Malraux. La présence à mes côtés de cet ami génial, fervent des hautes destinées, me donne l'impression que par là je suis couvert du terre à terre. L'idée que se fait de moi cet incomparable témoin contribue à m'affermir. Je sais que dans le débat, quand le sujet est grave, son fulgurant jugement m'aidera à dissiper les ombres. André Malraux, avez-vous vous-même dissipé vos ombres?
Qu'entendez-vous par là?
Vous êtes-vous dégagé de votre légende?
On n'est jamais sensible à sa propre légende. C'est une chose qui erre autour de vous. Et on ne peut pas, vous le savez comme moi, se regarder sur le miroir. Eh bien, on ne peut pas non plus saisir sa légende. Elle est aussi loin de vous. Et j'ajoute, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
On peut penser, André Malraux, que pour vous, ne sont intéressants que les très grands. De Gaulle, Picasso, parce que nous allons parler de votre livre, La tête d'obsidienne, Mao. Vous n'êtes intéressé que par ceux qui se sont dépassés.
Je n'en suis pas sûr. Dans le second volume des Antimémoires, il y aura des gens qui n'ont rien fait, je veux dire qui n'ont pas de gloire. Et depuis la première édition, j'ai ajouté des personnages sans nom aux Antimémoires. Je crois que ce qui fait que les personnages illustres ont joué un assez grand rôle dans le premier volume, c'est que j'étais très sensible à l'évolution du monde et je sentais que ce qui est notre siècle était en train de me glisser entre les mains et je ne pouvais pas le sentir plus violemment qu'en redécouvrant l'Asie. Or, l'Asie, ça me donnait Nehru et Mao et ça me les donnait au nom du général de Gaulle. Il s'est donc trouvé qu'une rencontre historique a projeté un grand coup de phare sur des personnages en effet chargés d'histoire. Mais je ne suis pas sûr que le problème en lui-même ne soit pas plus important que des hommes, même quand ils ont une telle importance. Il me semble qu'il faudrait partir de ceci. Quelque chose a commencé il y a 500 ans qui finit avec nous. Tout le monde en a parfaitement conscience, mais personne n'a tellement conscience de ce dont il s'agit. Essayons de nous approcher un petit peu. Nous dirons tout d'abord, autour de 1450, il y a le moment où l'Europe commence à découvrir le reste. Ça deviendra la colonisation, et 1950, ce sera la décolonisation. Le terme vaut ce qu'il vaut, il a l'avantage d'être très clair. Ce qui s'est passé, c'est tout de même, les Occidentaux, enfin les Européens, inventent la voile perpendiculaire dans laquelle souffle le vent, pas non plus obliquement, mais à plein. Ce qui permet les très grandes navigations qu'on n'aurait pas pu faire autrefois, puisque même lorsqu'on a contourné l'Afrique, quand les Carthaginois ont contourné l'Afrique, ils l'ont contourné avec des voiles de galère, c'est-à-dire des voiles qui étaient dans le sens du bateau, mais ils l'ont contourné en cabotage. La grande navigation impliquait les nouvelles voiles. Nous avons donc découvert le monde, mais le monde ne nous a pas découvert. Nous sommes allés aux Indes, en Chine, en Amérique, mais l'amiral Chani Miao n'est pas arrivé à Marseille. Et puis le grand Sachem n'est pas non plus arrivé à Brest. C'est donc l'Occident qui a conquis le monde. Ça a duré comme ça 500 ans. Et puis 1947, indépendance de l'Inde, fin de l'Empire britannique. 48, entrée de Mao à Pékin. Tout ce dont nous parlons correspond, en gros, au règne de l'imprimerie. Et le moment où l'Asie trouve sa libération correspond à l'entrée en jeu de la radio. Il semble donc que nous puissions dire « Ce qui cesse avec nous, c'est une immense aventure humaine qui a été la découverte du monde par l'Europe puis l'Occident, au bénéfice de l'Europe et de l'Occident, et que bien entendu, c'est encore là que se joue une partie considérable du destin. Mais enfin, le destin, ça a été la Méditerranée, ça a été un petit peu l'Atlantique, et maintenant, quoi, les deux puissances et demie du monde les plus grandes, elles sont autour du Pacifique. Qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine, du Japon, des États-Unis, sont des puissances pacifiques. Et il est évident que le prochain destin du monde, c'est le Pacifique. Alors, je crois que là était le point essentiel et que c'est un peu en fonction de ce que je viens de dire que j'ai écrit l'Obsidienne, parce que, en même temps que ce dont nous avons parlé, naissait le musée imaginaire. Car après tout, le musée imaginaire n'existait pas il y a 30 ans.
Vous avez l'impression d'être arrivé au bon moment d'une vie, que votre vie s'est déroulée dans sa meilleure période?
J'ai le sentiment que ce qui nous arrive n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Peut-être la fin de l'Empire romain, mais j'en doute, parce que ça s'est passé beaucoup plus lentement. Ça ne s'est pas passé dans une vie. Lorsque Saint-Augustin, qui en a le sens très fort, en parle, c'est acquis. C'est un peu comme si nous parlions de l'époque de 70. En ce qui nous concerne, j'ai connu les fiacres et les moineaux descendants des arbres de la place du Palais Royal. Bon, et puis j'ai connu la bombe atomique et pas mal d'autres choses, la chimie du cerveau. Je ne crois pas qu'il y ait un siècle de l'histoire de l'humanité qui représente une aventure humaine aussi extraordinaire que le nôtre.
André Malraux, vous avez été ministre, on a pu s'en étonner. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait, à cette place de ministre, vous aviez perdu un peu de temps puisque vous ne nous aviez pas donné de livre.
Vous savez, quand on m'a parler de ça la première fois, j'avais raconté l'anecdote suivante. Mallarmé disait « J'aime beaucoup savoir ce que dit mon chat quand il ne sait pas que je l'écoute. » Et alors, cette nuit, il parlait avec d'autres chats dans la gouttière, j'écoutais, et je voulais savoir ce qu'il disait. Alors j'ai écouté très attentivement, et il disait « Je feins d'être chat chez Mallarmé. »
Mais ministre, Malraux, ministre, c'est un...
Je n'étais pas ministre, j'étais ministre du général de Gaulle.
Voilà,
je le suis devenu avec lui, j'ai quitté deux fois le ministère en même temps que lui.
Qu'est-ce que la culture? Y a-t-il une bonne définition? Vous en avez donné beaucoup de définitions.
C'était des définitions pratiques. On peut tourner autour de ça à l'infini. C'est une notion excessivement complexe. Ministériellement, non. Quand j'avais dit mettre à la disposition du plus grand nombre les plus grandes œuvres de l'humanité, la formule pratiquement était bonne. Naturellement, elle n'épuise rien, mais c'était tout de même de ça qu'il s'agissait. Le problème de la culture, il est tout de même assez clair. Ou bien vous voulez une culture pour tout le monde, ou bien vous voulez une culture pour chacun. C'est pas du tout pareil. Mais il faut vouloir l'un ou l'autre. Sinon, alors, c'est accepter simplement de ne rien faire, de laisser les choses en l'état, et on sait qu'elles ne marchent pas très bien toutes seules.
Lorsque vous disiez la culture, c'est ce qui, dans la mort, est tout de même la vie. C'était la bonne définition?
C'en était une parmi d'autres. J'avais dit aussi la culture et l'héritage de la noblesse du monde.
Vous estimez normal qu'il y ait un ministère de la culture?
Pratiquement, je préfère. Parce que si vous ne faites pas de ministère, qu'est-ce que vous faites? un secrétariat général ou une direction générale. Où est la différence ? En ce que le ministre ne sera pas maître de son budget. Alors, je trouve plus raisonnable qu'un État prenne ses responsabilités budgétairement que de les supprimer. Car n'oublions pas qu'un secrétariat général n'ayant pas de budget, personne ne saura jamais ce que le gouvernement fait pour le pays. Alors qu'avec un ministère, il le sait.
Étiez-vous à votre aise, André Malraux, dans le gouvernement ?
Autant qu'ailleurs.
Vous étiez surtout l'ami du général, pas tellement le ministre.
Le lien avec le général de Gaulle était fondamental. Maintenant, vous savez, j'ai été très très peu dans un domaine proprement politicien ou parlementaire, et les problèmes qui ont été les miens, enfin, changer la couleur de Paris, c'était quand même assez excitant. Et aussi, la Joconde aux États-Unis et autres manifestations de ce genre, c'était d'une autre nature. Et puis alors, il y a une chose qui a été réellement très passionnante, ça a été la Maison de la Culture de Grenoble.
Qu'a-t-on fait justement de ces Maisons de la Culture après que vous soyez parti ?
Je ne sais pas, je crois qu'elles existent toujours. Je pense que la situation a été difficile parce qu'après mai 68, n'est-ce pas, il y a eu une tension entre les municipalités qui se sont trouvées devenir beaucoup plus à droite, et les organisateurs, enfin, disons, metteurs en scène, etc., qui se sont trouvés devenir beaucoup plus gauchistes. Je crois que la situation maintenant redevient un peu ce qu'elle était quand elle était la mienne.
André Malraux, dès lors que le général était parti, vous aviez besoin de silence ?
Je ne sais pas. Ce dont je suis absolument sûr, c'est que si je n'étais pas là pour contribuer à ce que souhaitait faire pour la France un homme dont le dessein était de servir la France, pratiquement j'étais intrus. Par conséquent, je n'avais qu'à m'en aller. Mais, essayons de parler tout de même de façon beaucoup plus précise. Enfin, je n'ai pas eu du tout de motif politique. J'avais dit au général de Gaulle, il n'est pas du tout nécessaire que je sois ministre. À quoi il m'a dit, c'est tout de même beaucoup plus raisonnable, plus pratique. Bon. Mais ce que je considérais comme essentiel, c'est pendant la résistance, j'ai épousé la France. Autrefois, j'avais, dans une certaine mesure, eu un lien extrêmement profond avec, disons, le prolétariat. Et j'ai eu pendant la guerre le sentiment qu'on ne pourrait rien faire qui ne passe par la France. Les Allemands étant à Paris, il fallait d'abord qu'ils en partent. Bon. J'ai donc fait ce que j'ai fait, et ça m'a mené à poser que ce qui était sérieux et concret, même par rapport au problème social, passait d'abord par la France. En conséquence, je me suis trouvé gaulliste et au service d'une tentative de présence de la France sur laquelle je ne crois pas m'être tellement trompé, parce qu'enfin, pendant tout le temps que cet homme était là, il y a eu une France pour le monde, et certainement il y en a encore. La France est bien plus ancienne que nous et durera bien après nous. Mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la même.
Je me suis permis de parler de votre passage au ministère de la Culture, quand dans votre histoire, peut-être certains vous reprocheront-ils justement d'être entré dans un gouvernement. Malraux dans un gouvernement, cela peut étonner beaucoup de gens. De ceux justement qui vous aiment.
Je ne crois pas que ça étonne qui que ce soit, à partir du moment où chacun est bien obligé de s'apercevoir des conditions dans lesquelles je l'ai quitté.
André Malraux, il y a maintenant deux ouvrages de vous, et très heureusement, le premier paraît chez Gallimard, La tête d'obsidienne, c'est l'histoire d'une rencontre. Picasso est parti, restent ses œuvres, et ses œuvres, vous savez les voir, vous savez les regarder. Il y a également un livre qui paraîtra chez Stock, Malraux, celui qui vient, c'est une conversation avec deux amis. Donc, vous êtes reparti sur les chemins de l'écriture. Une écriture que vous aviez abandonnée à un certain moment.
Non, j'étais reparti avant, parce que tout ça, ce sont des morceaux du second tome de dont le premier est Les Antimémoires. La conversation avec le général de Gaulle faisait partie de ce même livre. Au fond, j'ai recommencé à écrire pour Les Antimémoires, c'est-à-dire en revenant d'Asie la dernière fois.
On s'accorde pour dire que vous êtes le grand écrivain de ce siècle, et vous n'êtes pas à l'Académie française, et vous n'êtes pas tenté par ces honneurs-là.
Disons que c'est un problème qui, pour moi, ne s'est jamais beaucoup posé.
Et qui ne se posera pas.
Il ne me semble pas, mais je ne fais pas partie de ceux qui sont contre. Hein. Simplement, je pense que si on va à l'Académie, sérieusement, c'est pas pour y trouver des amis. Enfin, qu'est-ce que ça a de sympathique, c'est pas de donner des prix de vertu, c'est tout de même de s'y trouver avec un certain nombre de gens qui sont d'une qualité déterminée et de retrouver des amis. Je trouve ça tout à fait naturel, mais je pense aussi que nous pourrions, comme disait le général de Gaulle, prendre de la hauteur et nous dire qu'il y aura un problème de l'Académie parce qu'il y a un problème de toutes les institutions occidentales. Quand nous disions tout à l'heure que nous étions à la fin d'une phase du monde, il y a aussi une crise fondamentale de la peinture, il y a aussi une crise fondamentale des institutions, et il y a les institutions en elles-mêmes, et puis il y a aussi ce que font les gens qui s'y trouvent. Quand Richelieu a inventé l'Académie, ce n'était pas pour donner des prix de littérature, c'était pour que des gens qui étaient d'une on aurait peut-être dit une discipline, enfin, disons d'un ordre. Du clergé rencontre des gens qui rencontraient des écrivains, lesquels d'ailleurs, après, avec l'Institut, rencontraient des savants. Bien. En fait, les écrivains, par rapport simplement au début de ce siècle, l'évolution est considérable, car enfin, c'était presque tous des romanciers. Or, si vous voulez faire le compte des grands romanciers, mettons, bon, de la fin de la guerre, mettons de 50, qui ne font plus de romans, vous êtes aussi frappé qu'en peinture. Je veux dire, Faulkner n'a pas pu terminer son œuvre romanesque, il a uniquement fait le dernier livre que vous connaissez, qui n'est pas un vrai roman, avec le Christ maquillé, Dieu maquillé en général, etc. Bon, Hemingway n'a pas terminé son dernier roman, auquel il a travaillé des années et des années. Sartre a abandonné son roman, moi aussi. Mauriac avait fini péniblement en retrouvant un petit roman. Mais enfin, il n'écrit pas tout long sans en écrire. Quand ça se passe d'un bout à l'autre d'une civilisation, ça devient un phénomène curieux, puisqu'avant tout le monde faisait des romans. Bon, pour la peinture, nous avons été en face, comme le disait Paulhan, d'une époque de géants. Mais à l'heure actuelle, il est bien évident que pour les jeunes, il y a un problème de la peinture qui n'est pas du tout, comme on semble le croire, quelle va être la nouvelle école, parce que ça c'est la même chose que la nouvelle mode, c'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est que se passe-t-il dans un monde où on semble chercher une nouvelle fonction de la peinture. Quand Giotto a commencé son œuvre, on sentait à Florence que la mosaïque byzantine était mourante, je parle de mosaïque, puisqu'il travaillait en face du baptistère, passait donc devant tous les jours, et au nord, que le vitrail était mourant. Et ce qui est né, ça n'est pas du tout quelque chose qui supprime ce que nous appelons la peinture, c'est-à-dire le génie créateur des formes, mais c'est une évolution infiniment plus profonde qu'une mode. Eh bien, je crois que nous sommes autour de ça, et alors, en très grande partie, pour une raison banale que tout le monde connaît, c'est l'évolution des moyens de transmission. C'est-à-dire que quand nous envisageons le livre qui a dominé les 500 ans dont nous parlions, il est bien entendu qu'il ne domine plus, il a sa place, mais il ne domine plus.
Quelle importance accordez-vous à la presse, à la radio, à la télévision, puisque le livre, justement, ne domine plus tout le reste?
On a l'habitude de parler des moyens. Je ne dirais pas la presse, la radio, la télévision, je dirais la télévision. Parce que elle a un certain nombre de problèmes très particuliers que la presse n'a pas, que la radio n'a pas. Vous connaissez probablement l'expérience qui a été faite en Amérique, elle est assez curieuse. L'une des grandes institutions veut savoir comment les gens réagissent ou ne réagissent pas lorsqu'il retrouve la télé. C'est assez difficile, parce que, comme normalement, tous les gens la regardent. Bon, alors, la société décide de prendre une centaine de bonbons et de leur donner un salaire tout à fait estimable, uniquement pour ne rien faire pendant 6 semaines. Et alors, après 6 semaines, on les convoquera, on leur projettera des trucs, on leur demandera leur réaction, est-ce qu'ils préfèrent l'espoir, est-ce qu'ils préfèrent le jeu. Bien. Aucun n'a tenu plus de 15 jours. Ils ont préféré ne plus toucher leur salaire à ne rien faire et retourner à la télé. Alors, les biologistes disent qu'il y a une hypnose de la télé qui tient, et qui n'est pas du cinéma, qui tient en partie à ce que la lumière de la télé est projetée sur vous à travers l'écran, alors qu'au cinéma, elle est projetée sur l'écran.
Sur l'écran.
Et que par conséquent, il y a une action biologique toute différente. Enfin, ce qui est certain, c'est que l'action de la télévision est immense. Or, elle est un phénomène de transmission excessivement important, parce que lorsque McLuhan dit « nous avons affaire maintenant au retour à une civilisation acoustique et tactile », attention que la télé, ce sont bien des images. Et si nous revenons à notre propos qui était le musée imaginaire, vous voyez comment ça s'est passé en si peu de temps. Premièrement, on invente la photographie. Bon, ça, tout le monde, quand on fait des photos d'œuvres d'art. Mais il y avait une grande difficulté que les non-techniciens ne connaissent pas. C'est qu'un Japonais photographiait une statue chinoise des grottes. Il publiait sa photo dans une revue d'art. Si vous vouliez publier la même photo, vous ne pouviez pas. Parce que, comme elle était ce que les techniciens appellent tramée, si vous photographiez une photo tramée, lorsque vous la reproduisez dans votre propre trame, c'est impossible parce qu'il se produit ce qu'on appelle les moires. C'est-à-dire que la photo est inutilisable. Or, on a trouvé le moyen de résoudre ça que passé 1950. Et c'est pour ça que le développement incroyable du livre d'art dans le monde date de ce moment-là. C'est parce qu'on pouvait reproduire des photos, alors qu'autrefois, on ne le pouvait pas. Aussitôt après, entre en jeu le cinéma. Aussitôt après, la télévision. Et la télévision, vous voyez bien ce qui va se passer, c'est que sur l'art, elle devient un moyen de transmission extrêmement puissant, avec certains obstacles. Premier obstacle, la télévision est transparente. Donc, elle peut nous donner des vitraux très supérieurs à toute la production existante, mais quand elle nous donne un Rembrandt, il est transparent. Par conséquent, c'est tout de même pas sérieux. Mais on vient de découvrir le moyen de transmettre par la télévision des photos opaques. Ce qui est assez extraordinaire si on pense à la nature de la technique. Ce qui veut dire que dans 10 ans, la télévision projettera couramment des tableaux qui seront des tableaux. En même temps, vous savez où on en est avec les vidéodisques et les vidéocassettes. C'est-à-dire, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, on aura un disque qu'on fera tourner et ce disque donnera en même temps ce que vous entendrez et ce que vous verrez sur votre écran. Lorsque les disques vont paraître avec l'écran opaque, nous allons avoir une histoire de l'art représentant la totalité de l'art. Le reste cessera d'exister. Et alors, le Louvre deviendra, par rapport au public, à peu près ce qu'était la bibliothèque de manuscrits enluminés d'un grand seigneur, comme Jean de Berry, par rapport au brave type qui va acheter des livres de poche et qui prend Corneille, Racine et Molière parce qu'il a envie de les prendre, et ils sont à sa disposition quand il veut. Il est bien évident que l'existence, non pas exactement de l'imprimé, mais de la diffusion de l'imprimé, a changé la civilisation. Mais il est extrêmement probable que la disponibilité de la quasi-totalité des chefs-d'œuvre va changer tout autant notre relation avec les arts plastiques.
Et à cause de cela, tout doit être et tout peut être remis en question. Nous ne pouvons plus penser comme hier.
Ce sera remis en question d'une façon que je crois que nous pouvons expliquer. On ne comprend pas très bien pourquoi le fait de connaître beaucoup plus de choses modifie la pensée, disons, d'une civilisation sur ces choses. On se dit, si vous avez une opinion sur 50 Rembrandt, et si vous en avez 5000, qu'est-ce que ça change? Et je crois que nous pouvons prendre un exemple qui sera clair. Quand on connaissait seulement le chaboté c'était fait pour amuser les enfants. Mais quand on a connu 500 contes dans 500 endroits différents et dans 500 langues et époques différentes qui racontaient 500 chabotés, le chaboté a cessé d'être là pour amuser les enfants et il a été quelque chose qui se forme dans l'esprit des hommes. Eh bien, je crois que j'ai répondu à votre question. Il se passera des choses que nous ne pouvons pas prévoir. Personne n'a prévu que lorsqu'on ferait de l'ethnologie, le résultat serait le changement de nature du chaboté. Cependant, ça l'a été d'une façon absolue.
Vous donnez beaucoup d'importance à la télévision, mais êtes-vous sensible à son charme tout simple ? Parfois, peut-être à sa désespérance.
Je suis certainement sensible à la télévision, mais je pense que les problèmes qu'elle pose, enfin, il y a eu des spécialistes pour s'en occuper, mais il y a certains problèmes dont on ne sait pas s'occuper et qui vaudraient la peine. Par exemple, dans les problèmes de la jeunesse, mais il se trouve qu'avec la télé, un enfant de 12 ans se trouve avoir une connaissance générale qui est partiellement celle d'un adulte. Je ne parle pas du tout des questions sexuelles. Enfin, c'est une autre question qu'on peut prendre, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de tout. Autrefois, un enfant avait les connaissances de son âge. Vous savez comme moi que les classes d'âge ont été une des réalités les plus considérables de l'humanité. Ça continue avec la robe prétexte, etc. etc. Bien. Mais jamais il n'y avait un enfant qui assistait à un reportage sur l'arrivée de la reine d'Angleterre à Paris. C'est une chose aussi banale que ça. Cette atmosphère des adultes dans laquelle les enfants ne pénétraient pas, à l'heure actuelle, elle n'est plus fermée, elle est ouverte. Et je crois que les conséquences en sont immenses. Parce que je ne crois pas du tout que ce soit un désastre, entendons-nous. Ce que je crois, c'est que nous sommes à l'époque charnière et qu'il y aura une organisation de tout ça dans 50 ans. Mais pour l'instant, la télévision est en train de créer une présence de choses qui sont tout à fait lointaines chez nous, ce qu'on appelait l'angélisme, de même que le téléphone avait été inventé, que vous pouviez être ailleurs en étant ici, et simultanément, il y a la destruction de l'ancienne structure des civilisations. Je crois que les conséquences sont grandes.
Lorsque vous étiez enfant, André Malraux, il n'y avait pas tout cela. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le téléphone.
Le téléphone qu'on tournait fait partie de mon
mais
enfance.
Mais pas cette facilité de la communication que l'on a aujourd'hui. Toutes ces choses, à ce moment-là, vous paraissaient très absentes.
Impensables. Impossible. Il n'y avait pas non plus le cinéma comme art. Le cinéma a commencé comme distraction.
Il y a donc ce livre, André Malraux, qui est important, La tête d'obsidienne, qui paraît chez Gallimard. C'est une rencontre avec Picasso. Et je m'étonne d'une chose. Il avait ses collections. Il y avait les Picasso de Picasso, mais il y avait également l'autre collection qui groupait des toiles de ses amis ou des peintres qu'il aimait, comme le douanier Rousseau, Corot, Modigliani, Braque et tant d'autres. Et cette collection ne lui ressemble pas à Picasso, parce que c'est bien lui qui disait à bas le style, la continuité c'est l'enfer. Alors il n'y a pas là quelque chose à expliquer.
Je pense que c'est assez. Enfin, je pense que les choses se superposent. D'abord, les toiles qu'il avait étaient, dans une certaine mesure, des hasards. Il avait Cézanne, parce qu'il travaillait avec Vollard, qu'il avait fait des échanges. Il avait certaines toiles qu'il avait conservées parce que c'était des amis pour les jeunes. Il y avait Balthus et Miro. Était-ce un hasard? Je ne crois pas. Ça, je crois que c'était vraiment un choix. Il y avait la grande nature morte de Matisse qui l'a accompagné toute sa vie, qu'il aimait profondément. Ça, c'est un choix. Mais quelque chose qui peut intéresser nos auditeurs, c'est que Picasso a eu une relation de sensibilité infiniment plus profonde qu'à l'égard de tous les autres peintres avec deux peintres. L'un, c'est Goya, l'autre, c'est Van Gogh. Or, il n'y avait ni un Goya, ni un Van Gogh dans sa collection. Et on pourrait dire que c'est le hasard, je ne le crois guère, car enfin, Picasso a acheté des tableaux pendant 40 ans, il aurait tout de même trouvé un Goya. Mais quelque chose de très probant, c'est que il n'a, lui qui a fait des confrontations si importantes, depuis Courbet jusqu'à Velázquez, il n'a jamais fait une confrontation ni avec Goya, ni avec Van Gogh. Il y avait tout de même des tabous.
Mais vous êtes d'accord avec Picasso lorsqu'il dit la continuité, c'est l'enfer ?
Non, je crois que c'est excessivement important que ça ait été dit. Je crois que nous devons réfléchir à un phénomène bien curieux. Picasso est le seul peintre au monde qui ait pensé que la vie d'un peintre n'est pas d'approfondir son art. Lui a pensé qu'on devait changer de style. J'ai essayé d'expliquer que c'était pas du tout par hasard, c'était parce qu'il pensait qu'on devait approfondir sa révolte. Bon. Mais néanmoins, il a dit « j'ai imité tout le monde sauf moi », ça veut dire qu'il ne s'est pas soucié d'approfondir son art alors que tous les autres s'en étaient souciés. Or, l'une des conséquences, c'est sa présence tout à fait extraordinaire dans la peinture et dans notre époque. Car lorsque les bonnes feuilles ont été publiées par le Figaro, la correspondance reçue par le Figaro a été de même nature que l'est d'habitude la correspondance sur les sujets religieux, qui sont actuellement les sujets qui ont la plus grande audience. Et les amis de ce journal m'ont dit, si vous aviez fait dire les mêmes choses par un autre peintre, également très grand, disons Matisse, Braque, Rouault, Chagall, eh bien, l'audience n'eût pas été du tout la même, parce qu'il reste, d'un bout à l'autre du monde, un certain mystère Picasso. Alors, à la fin, je crois que j'en vois assez bien la clé, elle est dans ma conversation avec lui, n'est-ce pas ? C'est un ami de la Résistance qui était tout à fait ignorant en matière d'art, me dit, j'ai vu les prix qu'atteignait Picasso, ce type-là est tout de même nécessairement sorcier, parce que des tableaux comme ça, moi j'en fais autant, seulement si j'essaie de les vendre 100 sous, on ne me l'achètera pas. Et lui, il les vend 10 millions. Alors, le phénomène de sorcellerie que les gens pressentaient dans les formes, mais qu'ils étaient prêts à rejeter, ils ne leur jetaient pas lorsque cette sorcellerie s'est appliquée sur l'argent, c'est-à-dire à leur jeu sur la puissance. Et ça, je crois que nous ne pouvons l'appliquer à personne d'autre.
André Malraux, vous reprenez cette phrase de Picasso dans votre livre, La tête d'obsidienne. Picasso disait, il y a un moment dans la vie, quand on a beaucoup travaillé, les formes viennent toutes seules, les tableaux aussi, on n'a pas besoin de s'en occuper. En littérature, la chose est également valable ?
Je ne crois pas que les données soient les mêmes, parce que la littérature se fait avec des mots, et les mots servent aussi à parler. Tandis que le peintre, il ne fait pas sa peinture avec quelque chose qui sert à autre chose. On nous dira que les couleurs servent aussi à faire le ciel, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, je ne voudrais pas entrer dans un domaine trop technique, mais vous savez bien comme moi que, à partir du moment où l'alphabet est devenu un phénomène de civilisation, quelque chose de fondamental a changé dans la civilisation.
Vous êtes d'accord avec Picasso lorsqu'il dit ce qu'on fera est plus intéressant que ce qu'on a fait ? Pour vous, par exemple, ce que vous allez faire maintenant est-il plus intéressant que ce que vous avez fait dans votre vie ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que pour moi, c'est une question suspendue, que ça l'est pour presque tous les écrivains, alors qu'il me semble que mes amis peintres auraient tous dit ça. Et ça vaut la peine d'y réfléchir parce que quand j'étais au gouvernement, j'avais rêvé d'une exposition qui aurait rassemblé les plus grands chefs-d'œuvre des peintres à la veille de leur mort. Ça serait appelé quelque chose comme le génie de la vieillesse. Et alors, vous constatez que Hals, qui est un pur rasoir, à 80 ans, devient un colosse. Les Régentes, ça fait partie des sommets de la peinture. Rembrandt, il est plus jeune, mais lui ne sait pas qu'il va mourir, mais d'abord, on le sait. Et les tableaux le savent. Picasso, Renoir, Titien, grand peintre, mais bien. Mais les derniers Titiens, ça fait partie du sommet du génie. Et pour si peu de temps. Alors, je crois que nous ne pouvons pas imaginer une sorte d'anthologie de la vieillesse des génies littéraires. Il y a des gens âgés qui font des chefs-d'œuvre. Il y a certains poèmes de Victor Hugo âgés qui sont sublimes. Bon, enfin, avant tout, le Juillet de Gautier, ça. Il y a un certain nombre d'œuvres de Goethe passées 80 ans qui sont admirables, mais parmi d'autres, et le niveau n'a pas haussé. Tandis que, en ce qui concerne Hals, eh bien, il y a un peintre moyen qui devient un colosse. Alors ça, je crois que nous n'avons pas d'équivalent dans les autres arts.
Dans votre ouvrage, on le comprend très bien, André Malraux, Picasso est très occupé de célébrité, de postérité. Non pas...
Célébrité, je ne sais pas. Il était curieux, ça l'amusait, mais je ne crois pas qu'il y attachait beaucoup d'importance. Postérité, oui, parce qu'il se demandait s'il y aurait une postérité. Il envisageait très bien le moment où la peinture se trouverait sans postérité. Au fond de son cœur, il pensait que plus tard, elle reviendrait. Mais enfin, il savait très bien que l'art antique, dont on dit qu'il était immortel, qu'il voulait l'être, a passé 1000 ans dans la terre. Enfin, entre, disons, la fin de Rome et la Renaissance, l'art antique, on n'en parle pas. Bon, et puis ensuite, l'art roman, on a passé son temps à le badigeonner. Nos plus grands chefs-d'œuvre romans, le tympan d'Autun, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce qu'au XVIIIe siècle, on les trouvait tellement moches qu'on les avait recouverts avec des stucs jésuites. Alors, on ne les a pas cassés. Alors, après, on a retiré les stucs, on a trouvé les chefs-d'œuvre. Donc, il avait bien l'idée qu'à la fin, l'homme retrouverait tout de même son... il finirait gagnant cette partie avec les dieux. Bon, mais il pouvait y avoir une longue interruption, et ça, je crois qu'il n'est jamais arrivé à une vraie conclusion pour lui-même.
Mais il savait, lui, Picasso, qu'il était entré debout dans la postérité. Oui. Comme vous, d'ailleurs, André Malraux.
Moi, je n'ai pas du tout le sentiment, mais Picasso l'avait. D'abord parce que je crois que la reproduction des œuvres est, pour un artiste, une chose bien plus frappante que les traductions d'un livre.
Entrer dans la postérité vous occupe, vous ?
Je suis à une époque où on n'est pas très confiant dans la postérité. On en rêve, n'est-ce pas? Et puis, on en a beaucoup rêvé quand on était jeune, mais actuellement, je ne pense pas beaucoup en termes de postérité, parce que je pense avant tout que nous vivons la fin d'un monde. Alors, j'ai plutôt tendance à penser que ça ne disparaîtra pas comme ça. C'est bien étonnant de penser que l'homme qui m'a dit « l'humanité n'abandonne jamais ce qu'elle a trouvé une fois, elle finit toujours par le retrouver », c'est Trotsky. C'est bien inattendu. Bon. Il avait tout de même en partie raison. Je crois que l'humanité n'abandonne pas complètement, enfin que les surgeons existent. Mais néanmoins, je crois aussi que nous sommes à la veille, enfin à la veille, 50 ans ou dans le siècle, d'un changement immense. Alors, quant au problème que vous me posiez, sur que pensait-il de son audience, je vous disais, revoir des images dans des revues japonaises est bien plus frappant que de voir ses traductions, ça tient à ce qu'il faudrait que nous reprenions le mystère de la peinture. C'est un art beaucoup plus mystérieux qu'on ne croit. On croit qu'il ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que depuis des siècles, tout le monde croit que la peinture reproduit les choses. Vous savez que maintenant, pour les gens qui ont vraiment étudié, c'est pas sérieux. Justement, le musée imaginaire nous montre que c'est pas du tout comme ça. Si vous vous dites qu'est-ce que la peinture, problème fondamental dans notre civilisation, vous commencez à vous dire, mais il y a là, c'est ce que disait toujours Picasso, il y a là quelque chose d'assez louche. Je vais prendre un exemple qui est la Joconde. Bon, c'est le plus célèbre tableau du monde. Premièrement, c'est le seul tableau auquel ça stimule des fous. Des fous. Même homme se croit à la Joconde, il ne se croit à aucun autre tableau. Ça pourrait tenir à la gloire. Néanmoins, c'est bien avec la Joconde qu'on a eu le premier exemple d'un tableau dont on ne peut pas assurer que le modèle soit un homme ou une femme, et dont on pense que c'est peut-être Mona Lisa, mais peut-être pas Mona Lisa, et si c'est l'autre, elle a 18 ans de plus. Quel est le tableau, dans ceux que nous connaissons, qui permet une équivoque sur les modèles, l'un de 18 ans, l'autre de 36, tout de même assez rare. D'autre part, si c'est Mona Lisa, pourquoi a-t-elle le voile des veuves? Et pour en finir, quand je l'ai envoyé aux États-Unis, quand nous l'avons envoyé aux
comme États-Unis, ministre de la Culture,
aux États-Unis, la Joconde était donc sur la France. L'usage est qu'on ne donne les bouquets aux personnes qui doivent les recevoir que lorsque le bateau est en mer. Le bateau part, on distribue tous les bouquets à toutes les dames, et il reste un énorme bouquet de violettes de Parme, et la carte jointe est pour Mona Lisa. Alors le garçon se demande ce qu'il faut faire, va trouver le commandant, et le commandant, lui, c'est un journaliste malin, mais je suis aussi malin que lui, donnez-moi la carte. La carte est dans une enveloppe, c'est ça ? Alors le steward descend, revient avec la carte, et l'enveloppe portait pour Mona Lisa, mais la carte était blanche.
André Malraux, vous avez 73 ans.
Quel touche, était... touche, deux.
72 ans, pardonnez-moi. Quel était votre projet à 20 ans?
Dans ma génération, à 20 ans, on pensait qu'on serait poète maudit.
Vous le pensez toujours?
Non.
Que vous auriez dû l'être?
Le problème ne se pose plus. Il ne se pose plus, l'action est entrée en jeu d'une façon qui n'existait pas du tout. Pensez que nous aurions dû penser qu'après tout, Victor Hugo avait eu une vie assez pleine. Mais nous ne le pensions pas. Nos poètes, c'était Baudelaire, c'était Verlaine, c'était Rimbaud, etc. Et notre conception du génie, c'était le génie maudit. Et ça allait de soi. Ça ne faisait pas tellement romanesque, ça, allait de soi.
Mais dans votre jeunesse, vous aviez épousé la France ou vous aviez épousé le monde ?
Non, non. Pour moi, la France est née entièrement dans la résistance. Je ne sais pas, je n'étais pas anti, c'était un problème qui se posait parmi d'autres.
Comment ressentez-vous le monde aujourd'hui ?
Comme en métamorphose violente, éclatante.
Comme y participant ?
Ça ne peut pas durer comme ça. Et puis aussi, dans le domaine des connaissances et des sciences, pensez donc un peu à ce qui s'est passé en si peu d'années, quand Einstein m'avait dit la phrase devenue fameuse, le plus extraordinaire, c'est que tout ça a sans doute un sens. Et il y a plus de chercheurs vivants qu'il n'y en a jamais eu. Non pas à une époque de l'humanité, mais que l'humanité n'en a jamais connu. Je veux dire, si on rassemble tous les chercheurs humains, ils sont moins nombreux que les chercheurs vivants. Bon, la chimie du cerveau, qui n'est pas rien, que la camisole de force a disparu en Occident, c'est tout de même bien. Elle est née en 1958.
Quelle valeur défendez-vous ?
Peut-être qu'on sait mieux ce qu'on n'accepte pas que ce qu'on accepte. Et puis, je n'ai pas très envie de définir des valeurs. J'ai plutôt tendance à dire, c'est pas à moi de dire les valeurs que je défends, c'est aux autres. On croit toujours, ça veut dire les artistes, quels qu'ils soient. Un artiste croit toujours qu'il défend ce qu'il croit défendre. Il se trompe complètement et on s'aperçoit toujours que la métamorphose est reine et qu'il a défendu tout à fait autre chose. C'est l'humanité qui trouve dans les grands artistes ce qu'ils portaient en eux. C'est pas eux.
Oui, mais saviez-vous, André Malraux, ce que vous vouliez défendre ? Ce quelque chose, c'était l'homme.
Au domaine relativement superficiel. Je vous ai dit, il y a le côté négatif qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que qu'est-ce que c'est que la dignité ? C'est extrêmement obscur. Mais qu'est-ce que c'est que les gifles ? C'est tout à fait.
C'est l'humiliation.
Bon,
on peut la définir,
si
l'humiliation.
Nous prenons une chose qui est d'une telle actualité, à savoir le problème des femmes, les droits des femmes. Je trouve qu'on peut discuter à l'infini sur ce qu'on pense, ce qu'on ne pense pas de cette question. Mais à partir du moment où on dit que les femmes n'auront pas le droit de, je deviens féministe. Ceci pour dire qu'il y a une définition du refus qui porte un poids assez lourd. Mais ce qu'il faut mettre en face, à mes yeux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas véritablement les maîtres de nos valeurs. Nietzsche a cru qu'il serait l'homme de Zarathustra, et il est le plus grand irrationaliste du siècle.
André Malraux, vous étiez dans l'action, vous êtes maintenant plutôt contemplative. Alors la contemplation prime-t-elle l'action ? Et l'action vous manque-t-elle ?
Elle ne me manque certainement pas, mais c'est aussi parce que je suis extrêmement occupé à faire le con. C'est pas, écrire des livres de la nature, de ce que j'écris, est évidemment pour moi une certaine aventure, parce que dans celui que vous venez de lire, il y a ce que je découvre moi-même, il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées dans mes notes.
C'est un itinéraire à travers Picasso.
Oui, de ce que disait Picasso, qui ne m'avait pas tellement frappé à cette époque-là.
Vous disiez une fois au père Bocquel, que j'ai eu l'avantage de recevoir ici, « Nul n'échappe à Dieu ».
C'est lui qui dit ça, c'est-à-dire qu'il interprète dans un sens précis. Ma phrase était beaucoup moins précise, j'avais dit...
Je crois qu'il est né comme ça.
J'avais dit « N'est pas athée qui veut ».
N'est pas athée qui veut, oui.
Et ça n'est pas tout à fait la même chose. Et puis alors, si on pose le problème immense, qui est le problème religieux, n'est-ce pas, il faudrait dire d'abord que signifie le mot Dieu. Parce qu'une des choses qui m'ont le plus intéressé dans les recherches que je fais en ce moment, c'est de constater une chose si banale, mais que personne n'a écrite, et qui est stupéfiante. C'est que les dieux du polythéisme, c'est-à-dire avant tout les dieux antiques, étaient muets. Dieu, je vois, a des injonctions, le Christ parle, mais Aphrodite n'a jamais parlé. La déesse de l'amour qui possède le monde n'a jamais dit un mot. Et pour qu'elle se développe, comme l'évangile se développe, il a fallu la sculpture. C'est la sculpture qui, en idéalisant systématiquement les formes, crée Aphrodite comme chez nous, l'amour pourrait être créé par la musique. Et là, il y a quelque chose d'une extrême importance dans le que peut être le rôle d'un art sur une notion fondamentale. C'est l'une des conclusions de mon livre, c'est que nous avons découvert que l'art était nécessairement un moyen d'expression de l'inconnaissable. Et que quand nous parlons d'expression et de toutes ces choses-là, s'exprimer soi-même, ça allait bien il y a 50 ans. Maintenant, nous savons que les 9/10 de l'humanité n'ont pas exprimé un tel artiste. On a essayé d'exprimer ce qu'on ne pouvait jamais voir. On aurait dit autrefois, qu'est-ce que c'est que la peinture ? C'est l'art de montrer ce qu'on voit. Et nous dirions maintenant, qu'est-ce que c'est que la peinture ? C'est l'art de montrer ce qu'on peut voir.
Il y a cette phrase du général de Gaulle que je voudrais vous rappeler. Malraux ne croit pas en Dieu, c'est dommage, cela m'arrangerait bien. Alors
oui,
que pensez-vous, vous, de Malraux, de cette phrase ?
Je crois que c'est tout de même une... Enfin, il dit ça à l'abbé Bocquel, c'est tout de même une sorte de boutade. Parce que c'est... Maintenant, si ce que vous voulez me demander, c'est mon opinion sur la question religieuse, alors elle est tout à fait précise. J'estime qu'entre la nature de la connaissance Et le fait de la transcendance, il y a une rupture absolue, ce qui veut dire que je suis absolument agnostique. Et d'ailleurs, pas plus et pas moins que saint Thomas, c'est ça qu'il dirait, il n'y a de religion que par la foi. Alors, si vous avez la foi, vous avez la foi. Si vous ne l'avez pas, je crois que toute tentative rationnelle est vouée à l'échec. L'ordre de la transcendance n'est pas de l'ordre de l'intelligence.
Avez-vous l'impression, André Malraux, que vous avez été inventé pour une mission bien précise cette terre ?
Sûrement pas. Il m'est arrivé de faire certaines choses dont je me suis aperçu après qu'elles étaient peut-être pas mal, et j'en suis certainement content, mais je ne me croyais prédestiné à rien.
La mort est-elle pour vous toujours cette vieille ennemie hideuse et adorée,
Elle l'a jamais été. On a inventé ça parce que j'attache une importance immense au fait métaphysique de la mort. Naturellement, je pense que c'est une idée fondamentale, mais
la donne de la couleur à la vie
est impensable. Ce qui est réellement important, c'est que à partir du moment où le fait de la mort est pensé, il sert de pôle pour rendre intelligible un certain nombre d'éléments de la vie qui, sans la notion de la mort, seraient impensables. Ben, quand j'ai dit qu'on ne pourrait pas concevoir notre rapport avec l'art s'il n'y avait pas la mort, ça je le défends absolument. Mais je n'ai pas un rapport personnel important avec la mort.
La mort fait de nous des éternels condamnés, et en cela c'est bien.
Je ne sais pas, je dirais surtout qu'elle fait de nous des éternels destins.
Sommes-nous à ce moment-là des combattants dérisoires ?
Je ne vois pas pourquoi il y aurait un jugement de valeur sur au nom d'on ne sait pas quoi. Ou bien vous êtes chrétien, alors votre vie n'est pas dérisoire. Ou bien vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, au nom de quoi serait-elle dérisoire ? Nous allons finir sur quelque chose après tout d'assez sérieux. Vous savez, ce que j'ai écrit de mieux, c'est qu'en parlant de la phrase de Dostoïevski qui disait « Devant le supplice d'un enfant innocent par une brute, je rends mon billet », je disais « Je voudrais bien savoir en quoi le supplice d'un enfant innocent est plus important que le plus simple acte d'héroïsme ou d'amour. » Bon, je l'ai repris dans le discours d'Aiglière en disant « Après tout, qu'est-ce que l'absurde le plus terrible à côté de la tâche du plus humble sont lorsqu'il est un sang fraternel ?»
André Malraux,
nous en tenir, là.
Non, je voudrais vous poser une dernière question. D'ailleurs, nous pourrions rester encore des heures et j'en serais ravi. Avez-vous été frappé par la mort d'Henri de Monterland ?
Je l'ai frappé, non. Je pense qu'il en eût été comblé. Elle correspond à l'idée qu'il avait de lui-même et mourir d'une mort qu'on a choisie et qu'on aurait choisie, c'est bien. Et pour terminer, vous savez comment s'est passé le dernier jour ? Il déjeune avec un ami et Monterland ne prenait jamais de café. Et l'autre commande un café et naturellement le garçon n'apporte qu'un. Et Monterland dit « Aujourd'hui, apportez-moi un ».
Faut-il choisir sa mort ?
Sans aucun doute. Il est stupéfiant qu'il n'y ait jamais eu une civilisation qui ait posé la mort comme donné par cette civilisation même. C'est pour moi un sujet de stupeur. Je ne dis pas du tout qu'il faille, le mot est beaucoup trop impératif, mais je dirais, quand je pense que ça n'a jamais été le cas, alors que vous avez eu des modes de vie comme le stoïcisme, je trouve stupéfiant que ça ne se soit pas trouvé.
Vous, André Malraux, vous saurez choisir votre mort ?
Qui sait ? En tout cas, ça ne me gênerait pas.
Êtes-vous en plein accord avec la vie que vous avez eue ?
Personne n'est en plein accord avec la vie qu'il a eue, on fait ce qu'on peut.
Vous avez toutes les raisons d'être content de vous ?
Je ne crois pas que je sois très mécontent de moi, je ne crois pas que je sois content non plus. Il me semble que le rapport avec la vie n'est pas de cette nature-là. Il est beaucoup plutôt d'une autre nature. Quand on a commencé à traduire les textes essentiels du Zen, il y a un passage qui n'a presque pas été traduit dans les langues occidentales qui est prodigieux. Les exercices du Zen pour aboutir à l'extase passent par l'expérience de la mort. Et le texte sacré dit « Lorsque tu arriveras au moment où tu rencontreras la mort, tu te sentiras sourire, ne t'étonne pas, c'est toujours ainsi.
Merci, André Malraux.